Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Dégradation de la fertilité des sols et des rendements, mal-être général de la profession agricole, impact sur la santé et atteinte à l'environnement, le modèle agricole conventionnel montre de plus en plus ses limites. Peut-on considérer l'agroécologie comme une alternative possible pour nourrir les bientôt 8 milliards d'humains? Une transition vers une agriculture toute agroécologique est-elle envisageable? Pouvons-nous agir à titre collectif et individuel pour changer de modèle? Quelle est la véritable urgence à transformer nos modes de production? Pour répondre à toutes ces questions, une conférence radiophonique a eu lieu à l'Université de Montpellier avec comme invités Pierre Rabhi, Jacques Capla et Nicolas Brahic. Un événement co-organisé par Cosciences et Radio Campus Montpellier en partenariat avec Radio Aviva, RCF Hérault Maguelone, Evolt, l'Université de Montpellier et le groupe naturaliste de l'Université de Montpellier. Tout de suite, nous vous proposons de réécouter la troisième partie de cette conférence.
Univox.
Et vous êtes bien toujours sur nos antennes, cette émission spéciale à la Faculté des sciences de Montpellier. Nous sommes toujours avec Pierre Rabhi, Jacques Capla et Nicolas Brahic pour discuter justement d'une grande question. Peut-on nourrir la planète avec l'agroécologie? D'ailleurs Yann, maintenant nous pouvons peut-être parler de solutions locales.
Oui, tout à fait Guillaume. Alors avant cela, je vais rappeler une évidence. Mais la base de l'agriculture reste le sol, la terre, l'épiderme de notre planète, Pierre, support du vivant, avec sa partie supérieure, l'humus, avec ses quelques centimètres qui foisonnent de vie avec ses vers de terre et ses bactéries. Mais les sols souffrent, malmenés par des années d'agriculture conventionnelle, le surpâturage, on en a parlé, la déforestation, on n'en a pas parlé. Les phénomènes d'érosion des sols touchent une grande partie de zones de culture en Europe. La situation dans les pays tropicaux et méditerranéens est encore plus dramatique. Alors j'ai un chiffre, c'est 20% des terres dans le monde sont détériorées. Alors l'érosion et la désertification progressent, des solutions locales apparaissent. Mais alors, une question, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre nos sols? Jacques.
Je m'attendais à ce que Pierre commence, parce que c'est un de ces thèmes qui lui tient beaucoup à cœur, mais je peux...
Bah, tous les deux.
Vas-y. Bon, alors je peux dire juste un mot. Rapidement, oui, les sols ont perdu énormément de richesses. Il y a un vrai, vrai danger. Pierre a évoqué l'érosion terrible qu'il peut y avoir dans les régions subsahariennes dès lors que les pluies sont très violentes et emportent les sols. C'est des choses qu'on va avoir de plus en plus en Europe aussi, qu'on a déjà de plus en plus en Europe. Et... juste rapidement, une idée, enfin une notion qu'on oublie très souvent, c'est que les sols vivants, les sols qui ont de l'humus, et je laisse Pierre développer sur cette dimension-là, ces sols qui ont de l'humus sont normalement des éponges. C'est-à-dire que la matière organique maintenue dans l'humus a une capacité à fixer l'eau. Et un sol qui est très bien conduit en agroécologie est capable d'absorber 300 mm d'eau par heure, pour les plus performants, ou au moins 100 mm d'eau par heure lorsqu'il fonctionne à peu près normalement. Aujourd'hui, la plupart des sols agricoles européens, conduits en agriculture conventionnelle, sont tellement appauvris qu'ils ne peuvent absorber que 1 mm d'eau par heure. Donc vous voyez la différence quand il y a un orage où il tombe 150 mm d'eau en quelques heures. Ben dans un cas, c'est tout absorbé par l'éponge. Dans l'autre cas, ça devient une toile cirée. Tout s'écoule, emporte le sol, crée des inondations, fait sauter les barrages, etc. Donc la question du rapport à l'eau est vraiment importante, parce que derrière, évidemment, un sol qui a absorbé l'eau, ben, il la restitue plus tard quand il fait sec. Alors s'il ne l'a pas absorbé, ben, on va dire ah, il faut irriguer, etc. Donc là, on a vraiment on arrive très clairement à une impasse technique.
Pierre ?
Oui, ben, Jacques, quel
est le rôle de l'arbre ?
Ben, si vous voulez, la vie est advenue sur Terre avec des végétaux qui ont poussé de toutes sortes, etc. Tout ça s'est harmonisé, il y a eu des animaux qui se sont constitués dedans. Et puis, il est parti sur ce principe, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est le fondement de la
phrase de la
continuité. Voilà,
ouais.
C'est la continuité. Et quand vous prenez le fonctionnement d'une forêt, par exemple, vous vous rendez compte que l'arbre pousse, bien sûr, il devient petit, grandit, mais au fur et à mesure qu'il grandit, il restitue à la terre ses feuilles qui tombent en automne. Ces feuilles qui tombent en automne constituent une litière, et cette litière végétale, organique, est investie par toutes sortes de petits animaux, d'insectes, et surtout de bactéries, d'éléments invisibles, et tout ça transforme, et ça aboutit à quoi ? À l'humus. Et l'humus, c'est le fondement de la vie. Il n'est pas anodin qu'on ait parler de l'humus, humanité, humilité, humidité, enfin ça fait partie de toute une symbolique si vous voulez, et c'est cet humus là qui va faire rebondir en quelque sorte la vie. Bien sûr, selon les biotopes, quand on est dans des hivers rigoureux, il y a une espèce d'arrêt, quand on est dans des climats comme des climats tropicaux, ça travaille en continu et en fonction des lieux et des biotopes, donc il y a un ralentissement ou une accélération de ce processus-là. Mais c'est celui-là, le processus de la vie. Ensuite, cet humus, effectivement, il a la capacité de retenir beaucoup d'eau. Nous, on a fait des expériences. Et quand la pluie tombe, au lieu de partir, elle est emmagasinée en quelque sorte dans cette éponge constituée qui se mélange petit à petit. Les vers de terre vont faire descendre l'humus dans la terre ou d'autres insectes, et ainsi la terre est vivifiée, c'est-à-dire qu'elle est vivante, elle est réellement vivante. Et quand vous venez planter, vous ensemencez sur cette terre, et bien vous avez un véritable univers complexe, absolument magnifique, et dans lequel la plante va aller chercher ses propres substances. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec quand vous imposez à la plante du NPK. Vous lui imposez, et quand vous lui imposez du NPK, elle se gorge de ces substances au détriment des oligo-éléments, des sels minéraux, de tout ce qu'elle pourrait absorber dans cet univers subtil.
Voilà. Juste pour préciser, peut-être NPK, c'est les engrais chimiques, oui, azote, phosphore, potassium, qu'amène l'agriculture conventionnelle. Voilà.
Et ça, c'est évidemment, on triche ou on transgresse, en quelque sorte, on transgresse une loi fondamentale qui a été établie bien avant nous, qui a permis à la vie de vivre, de se déployer, et que nous sommes là aussi en train de détruire. C'est-à-dire que nous arrivons maintenant à des sols de plus en plus matraqués, de plus en plus stérilisés, c'est-à-dire que les sols sont devenus stériles, et je dirais que c'est un préjudice énorme que n'inflige à l'humanité tout entière. Parce que la Terre, ça devrait faire partie du patrimoine à préserver, et non pas un patrimoine dont on fait ce que l'on veut, comme l'eau, comme toutes les autres, tout ce qui nous est donné gratuitement par la vie et qui préside à notre survie et à notre continuité, devrait être non pas déclaré propriété de ceci, propriété de cela, ça devrait être déclaré patrimoine de l'humanité. On peut en avoir l'usufruit, enfin l'emprunter durant le temps où on a une activité, mais qui est conforme à un cahier des charges établi, ne pas détruire, bien entendu. Et moi, j'irai jusqu'à dire, bon, on restitue une fois que le patrimoine à l'humanité. On est loin du compte, c'est-à-dire que maintenant, en fait, du moment qu'on a de l'argent, on peut faire du hold-up légalisé. On légalise la confiscation que nous faisons à l'humanité sous prétexte qu'on a de l'argent. Donc c'est une règle qui est immorale, qui est à mon avis immorale, et qui devrait être réformée au nom de l'humanité par la politique, si la politique est intelligente. Maintenant, bon, il faut attendre peut-être encore quelques décennies ou quelques siècles, mais voilà, le problème est là, c'est que l'argent est en train de confisquer, le pouvoir de l'argent est en train de confisquer à l'humanité un patrimoine légitime.
Ces services gratuits, maintenus. Ces services totalement gratuits de la nature, voilà. et de ne voir que la nature en termes de ressources, ce que vous disiez au tout départ, hein, de ressources à puiser. À faire un hold-up justement généralisé.
C'est un hold-up légalisé.
Et justement, dans la formation de terre et humanisme, oui, dans ce terme-là, justement, il y a terre et humanisme. Donc, oui, ce qui est intéressant dans votre propos, c'est justement que l'humanité est mise au même rang que l'humus, justement, le sol, la vie et la planète.
Pour nous, c'est indissociable. C'est-à-dire qu'en En fait, pourquoi l'humanisme ? Parce que l'humanisme, pour moi, c'est ce qui va éradiquer l'humanitaire. Je n'exclus pas l'humanitaire d'accidents. Il y a un feu, il y a je ne sais pas quoi. Bon, les catastrophes, ça, oui, l'humanitaire est indispensable. Mais l'humanitaire qui confisque à l'humanité le bien qui lui revient pour lui restituer du bon cœur en sac, non, c'est pas, moralement, c'est pas admissible.
Univox.
Moi, je rebondirais sur la question de Yann, sur l'arbre. L'arbre, en fait, j'ai cette chance de pouvoir parler avec des gens qui transmettent aussi. Et j'ai eu un échange avec Claude et Lydia Bourguignon à ce sujet. En fait, ils m'ont expliqué que l'arbre, c'était en fait un lien entre deux mondes. L'arbre, il est capable d'aller chercher des éléments dans la partie minérale du sol, de les remonter. Et il y a des échanges permanents qui se font. J'ai entendu beaucoup d'explications sur la faune du sol, sur les mécanismes, et on a oublié un règne essentiel, les champignons. Les champignons, en fait, sont un règne qui est phénoménal. En fait, il faut bien comprendre que c'est eux qui ont inventé Internet. C'est pas l'humain.
Oui, puisqu'ils font les célèbres mycorhizes, ces relations entre arbres et champignons de sous le sol.
Voilà.
C'est tout un réseau de sous le sol.
C'est un réseau hallucinant. Je pense que Google devrait mettre beaucoup d'énergie là-dessus. En fait, les champignons sont bien plus performants que tous les réseaux humains. Ils sont capables d'échanger des informations à une vitesse quasiment instantanée, très rapide, et puis de permettre donc des liaisons entre différents mondes. On ne va pas rentrer dans les termes, mais donc il y a plusieurs types de faune. Et donc l'arbre, lui, va faire cet échange-là. Il est capable de remonter de l'eau dans des périodes très arides, et puis de faire ces échanges entre le monde minéral inférieur et puis la vie, donc sur sa partie superficielle, puis aussi sur sa partie aérienne. Donc ça, c'est fantastique. Et donc il y a un phénomène, il y a une approche qui est essentielle. Il ne faut pas couper un arbre. Si vous coupez un arbre dans une forêt, vous avez tout faux. Vous avez complètement compris aucun des mécanismes d'aggradation des sols. C'est-à-dire que moi, je me suis posé cette question, pourquoi sous un arbre, quand il fait très sec, et Dieu sait qu'il fait sec en ce moment, ça fait plus de 3 mois qu'on n'a pas eu une goutte d'eau sur le Larzac, pourquoi on n'a pas observé que sous les arbres, lorsqu'il fait très sec, il y a de l'herbe verte? En fait, les arbres sont générateurs de vie et ils sont capables de protéger et de faire croître cette vie. En fait, ce sont comme des habitats naturels dans lesquels la biodiversité explose. Et donc, le système qui est essentiel à comprendre, c'est qu'on a le droit, comme disait Pierre, de prélever une partie de cette ressource, mais elle n'est pas dans les arbres. Et éventuellement, les branches basses, et encore en faisant attention, elle est sur la ressource inférieure, ce que j'appelle broussaille. Celle-ci s'auto-génère, elle est capable elle est quasiment infinie, et elle est capable de se régénérer.
Et Nicolas, justement, on peut en parler. Tu as monté une entreprise en 2012, Buxor,
oui.
Qui s'occupe justement de la valorisation, c'est ça, de ces broussailles.
De ces broussailles.
En un pré-compost. C'est ça. On parlait du buis sur le Larzac et de ce recouvrement par le Larzac de buis. Justement, toi, c'est ce qui te préoccupe et ce qui te touche.
Voilà. Alors, en fait, l'embroussaillement, c'est quelque chose qui n'est pas géré. La plupart des approches sont des approches agressives, encore une fois. On veut y mettre le feu, on veut trouver des solutions. On a eu énormément de feux de forêt actuellement. C'est un vrai fléau. Personne ne se pose des questions. On dit il manque de canadaires, mais pourquoi il n'y a personne qui dit mais pourquoi on ne ferait pas un travail en amont, c'est-à-dire restaurer cet espace, empêcher de s'embroussailler, et puis éventuellement installer des producteurs de viande, mais on va dire de viande de forêt. Hein. On parle beaucoup de viande de brousse en Afrique, mais je suis désolé, un bon troupeau en extensive géré dans nos forêts méditerranéennes, ça fait une viande d'exception. Moi, j'arrive pas à fournir parce que, en fait, c'est simple de faire de la bonne viande. Il suffit de laisser les animaux s'autogérer sur des espaces ouverts. Et en fait, donc, cette broussaille, on la gère comme une ressource. Et c'est très important. Moi, c'est quelque chose qui m'agresse. On est toujours là dans la gestion des déchets. On parle de déchets, déchets, déchets. Et même la biomasse, donc quand on coupe les branches au bord des routes, il faut trouver des stations de gestion des déchets verts. Déchets verts, mais vous vous rendez compte jusqu'à où on va ? Donc on ne voit pas que ce soleil permet de faire pousser cette matière et que quelque part, c'est du soleil en boîte. En fait, on a la capacité de générer énormément de chaleur grâce à cette broussaille, de générer une vie et une capacité à recréer du sol. Et là, je suis d'accord avec ce que disait Jacques, il y a des mécanismes naturels de création, de perpétuation de sol vivant, mais il y a aussi des zones où en fait, il n'y a plus de sol. Donc on doit aussi connaître des mécanismes, et la broussaille en fait partie. En fait, on la coupe en petits bouts, on la met en tas. Lorsqu'on la met en tas, elle va chauffer. Alors ça, c'est fantastique, mais personne ne le sait. Ça chauffe la broussaille, et bien plus longtemps qu'un fumier de cheval, qu'un fumier de vache.
C'est, quoi, c'est à quelle température ça,
on est
ça chauffe?
On est autour de 60-65 degrés pendant plus de 18 mois. Ouais. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'en fait, l'énergie, elle est là. Elle est disponible. La forêt, la broussaille, le sous-bois forestier est capable de nous sortir du marasme dans lequel on est.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Des questions sur les apports scientifiques, enfin tout ce qui est outils modernes. Sur quels outils s'appuyer justement pour soutenir le développement de l'agroécologie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses? Il est aussi posé la question de est-ce que on peut démontrer quelles sont où est-ce qu'on trouve les données relatives à l'agroécologie qui vont peser scientifiquement face à les données scientifiques qui sont actuellement.
Question très intéressante, Pierre peut-être sur.
Moi je peux pas faire plus que d'écrire un bouquin. J'ai écrit un bouquin. Sur cette
on va dire que c'est déjà pas mal.
J'ai expliqué, mais alors là on parle pas de forêt parce que la forêt là où j'ai travaillé il y a pas de forêt. Il y a que des arbres dispersés. Ce bouquin, je l'ai envoyé, enfin des amis, une fois qu'il a été publié, m'ont dit, vous l'envoyez au ministère de l'Agriculture. comme témoignage, mais nous, on avait pris la précaution de tout mesurer, quelle était l'érosion des sols, quelle était la composition bactérienne des sols, quelles étaient les substances, quelles étaient, enfin, tout ce qui pouvait amener de la crédibilité à ce qu'on disait. Voilà. Et ces expériences-là, elles ont été faites, je veux dire. Alors, ce bouquin s'intitule « L'offrande au crépuscule ». Je l'ai dédié aux femmes parce que j'ai vu au Sahel que sans les femmes, ça ne marche pas. Et que c'est elles qui portent tout, dans les deux sens, d'ailleurs. Et ce bouquin, ben, je l'ai présenté, l'éditeur m'a dit « Est-ce qu'il ne faudrait pas le présenter au ministère de l'Agriculture pour un prix ?» Et il a eu un premier prix. Je ne peux pas mieux faire. Voilà. Donc je m'attendais à ce que ce bouquin me soit renvoyé par retour du courrier, parce que j'étais justement critique par rapport à l'approche agronomique aujourd'hui qui font de tout sur les substances chimiques et qui finalement ruine, aggrave la famine dans le monde. Il faut aller jusque-là, il ne faut pas oublier. Moi, je ne peux pas simplement parler de la problématique du Nord avec les forêts, etc. Je suis obligé de tenir compte d'un certain nombre d'êtres humains qui sont, eux, confrontés au désert. En partie, ils le provoquent et en partie, c'est une fatalité qui s'installe pour eux. Donc, moi, je ne peux. Tout à l'heure, on me parlait d'humanisme. L'humanisme, pour moi, c'est le global. C'est-à-dire prendre en compte. C'est pas simplement nous retirer dans notre précaré et voir les problématiques de notre précaré. Si aujourd'hui, on ne prend pas en compte la situation difficile de tas de peuples qui meurent de faim, qui sont vraiment dans l'agonie. Pour qui, moi, quand je vois par exemple que nous on fait un pipi, on tire la chasse d'eau, 10 litres d'eau qui s'en vont, ou je sais pas combien, et quand je sais que des femmes sont obligées d'aller faire des kilomètres pour ramener ces 10 litres d'eau pour survivre, c'est pas pour leur pipi, c'est pour survivre, eh bien, ces inégalités là, je ne peux pas les occulter et me focaliser sur la problématique de l'Occident. Voilà. Et aujourd'hui, il y a prendre soin, c'est pour ça que l'humanisme est pour nous extrêmement important, parce que c'est une vision humaniste. Et par ailleurs, on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire, exploiter son prochain. C'est pas parce qu'on va manger bio que tout ira bien. Encore faut-il que l'être humain lui-même se mettre dans ce compost lui-même, c'est-à-dire qu'il change aussi de sa propre attitude. Oui. Parce que
changer de valeur, de voilà, sens.
Et vous pouvez bouffer bio et puis être insupportable. Vous pouvez aller.
Mais voilà. C'est pas corrélé, bouffer bio voilà. Et être et, sympa. Quoi.
Et oui, vous allez manifester contre ceci, contre cela, et vous rentrez chez vous, vous pourrissez la vie de ceux qui vous entourent. Alors à quoi ça sert? Je veux dire, aujourd'hui, on continue toujours sur le registre de l'humanisme, c'est-à-dire il faut que l'être humain, bien sûr, il faut du bio, il faut respecter la nature, faut pas. Moi, je souscris et j'agis. Mais je me rends compte que ça fait des milliers d'années que les êtres humains se détruisent entre eux, qu'ils n'ont pas cessé de se détruire. Encore, il n'y a qu'à regarder aujourd'hui encore les informations pour voir que l'homme détruit l'humain, l'homme détruit la nature, etc. Alors, c'est se condamner un peu à mettre des rustines un petit peu partout, mais en fait, le fond profond, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'écologie comme fondement de la vie et enseigner dès tout petit aux enfants, par exemple? Pourquoi ne pas leur enseigner tout petit la vie, l'écologie, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et petit à petit, pourquoi ne pas équilibrer le féminin et le masculin? Pourquoi est-ce que le féminin serait subordonné au masculin, etc.? Pourquoi est-ce qu'on détruit les baleines, qu'il n'y en a plus, bientôt plus, pourquoi, etc. Donc tout c'est pourquoi, quand vous cherchez la racine, elle est en nous. Et si elle n'est pas résolue en nous, elle sera résolue nulle part. Voilà. Je suis peut-être un vieil abruti, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris tout au long de ma vie, c'est qu'on fait des choses. Et l'être humain lui-même ne s'impliquant pas dans sa transformation pour aboutir à une société viable, eh ben on fera peut-être des missiles bio. Peut-être qu'on fera des missiles bio. Voilà.
Éco-responsables.
Attention, je ne vous ai pas envoyé n'importe quel missile. Hein. Moi, nos missiles sont bio. Ils sont posés.
Voilà. Attention, on est sympa. On est sympa. Alors oui, il y avait Jacques qui voulait intervenir. Jacques.
Le fondement du changement, il est dans l'humain.
Il y aurait toujours beaucoup de choses à réagir aux remarques de Pierre. Juste une remarque quand même, c'est, je suis plus optimiste que lui sur les consommateurs bio quand même. C'est que les... Enfin, je constate que, heureusement, parce que normalement, on ne peut pas être bio et faire tout ça, parce que justement, normalement, c'est censé, on est censé prendre en compte ces aspects-là. Hein. Moi, je vous invite vraiment toujours à faire attention à pas confondre bio avec sans chimie. Effectivement, on peut faire plein de choses sans chimie en étant un tyran. Normalement, si on est vraiment bio, on doit se poser ces questions-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un cheminement. Les consommateurs bio qui vont commencer à acheter des produits bio en supermarché pour leur santé, en général, commencent à acheter ensuite en magasin spécialisé, à se poser des questions en matière de commerce équitable. Je ne sais pas s'ils vont jusqu'à poser des questions sur leur relation homme-femme. Est-ce que les hommes qui consomment bio prennent leur part dans les travaux du ménage? Je ne suis pas sûr, mais c'est des choses qui normalement devraient venir. Et alors sinon, pour répondre à la question initiale qui était les références techniques qu'il peut avoir, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau technique, il n'y a pas une solution unique. Il y a autant de techniques d'agroécologie qu'il y a de milieux d'écosystèmes sur la planète. Donc il y en a une infinité, ou presque. Mais il y a quand même des études qui ont été menées, après les travaux de pionniers qu'a pu ouvrir Pierre. Et aujourd'hui, on a notamment aux États-Unis un institut qui s'appelle le Rodale Institute, qui depuis 35 ans, même presque 40 ans maintenant, je crois qu'ils ont commencé en 78, compile des données de comparaison de systèmes bio-conventionnels, etc. On a en Suisse aussi un institut qui s'appelle le FIBEL qui compile des données là-dessus. On a au niveau mondial, sur les agricultures à travers le monde, pas mal d'associations. Je pense par exemple à AgriSud, qui publie régulièrement un rapport sur des exemples de pratiques menées un peu partout dans le monde de développement basé sur les principes de l'agroécologie avec plein de techniques très, très précises. Voilà, donc on commence à avoir un certain nombre de données. Et à l'échelle mondiale, on a quelques études synthétiques qui montrent que ces démarches-là sont extrêmement performantes dès lors qu'on n'a pas les impasses qu'on a en Europe, c'est-à-dire dès lors qu'on peut avoir des semences adaptées, etc. Donc si on met l'Europe de côté et l'Amérique du Nord de côté, qui montre que ces techniques sont en fait les plus performantes, il y a le rapport d'Olivier de Scutter, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. On a une étude de l'université d'Essex. On a une étude de l'université du Michigan. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'études.
Et sur,
avec ces noms-là, vous pourrez retrouver sur Internet.
Et justement, c'est sur Internet qu'on peut retrouver toutes ces informations, sur AgriSud peut-être, le site d'AgriSud.
Alors, le site d'AgriSud. J'ai aussi un blog où j'ai fait des articles dans lesquels il y a tous les liens.
D'accord, donc, très bien.
Moi, changeons d'agriculture sur un aspect aussi.
Oui, Nicolas.
C'est qu'en fait, la technologie, très rapidement, la technologie, en fait, moi, m'a permis à mon échelle, au départ, j'ai coupé les buis à la main. Je me suis très vite aperçu qu'en toute une vie, je ferais très peu d'espace et que je n'arriverais pas.
Parce que le buis, c'est assez dur.
Il faut se lever le matin. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de technologies qui étaient dérivables. Par exemple, les pelles mécaniques. Alors moi, on ne va pas citer des marques, mais j'utilise des systèmes combinés qui sont utilisés pour le TP et qui peuvent être dérivés en forêt et qui fonctionnent très bien. Là, par exemple, on a créé un broyeur hybride télécommandé. C'est unique et on passe d'une consommation de 48 litres théoriques sur ce broyeur à 8 litres parce qu'on a plus de batterie que de thermique. Et en fait, la technologie existe et ça vient de l'automatisation des trams. Donc en fait, avec l'équipe Jean-Paul, on est parti sur un système où en fait, on s'est servi de systèmes existants et on les dérive pour l'agroécologie. Donc il faut bien comprendre que notre technologie, tout est bon en fait. Il faut être pour, il faut aller avec. Il y a beaucoup de phénomènes qui découlent de recherches militaires et qui ont donné des choses positives. Ça fait râler que ça soit les militaires qui aient démarré, mais il faut en être conscient.
Et ça milite justement pour l'idée que l'écroécologie n'est pas simplement un retour en arrière, mais aussi évolue avec les technologies sont existantes.
Mais je suis de la vie, de Pierre, il y a quand même des aspects de biotope et d'hémisphère. Moi, je fais avec les moyens que j'ai en place.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.